Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et invoquer le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide et nous fasse grâce. On a toujours besoin de son appui et de la vie qui coule parmi nous et à travers la parole. Et que nous puissions vraiment écouter sa voix encore ce soir. Pas la voix d'un homme, mais la voix du Seigneur. Amen. Alléluia. Merveilleux Jésus, nous voici encore à toi ce soir, réunis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Toi, l'innocent qui a donné ta vie pour nous et ton sang encore là sur l'autel pour donner à chacun la vie. Donne-la la force nécessaire pour continuer le chemin. Donne-nous la victoire, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Parce qu'il s'agit de cela, de recevoir continuellement la victoire, celle que tu as donnée à Golgotha et que tu as manifestée en donnant ta propre vie, de façon que nous puissions échapper à tout ce qui va arriver bientôt. Merci. Afin de pouvoir arriver à cette Jérusalem céleste, là où tu nous prépares une place. Merci Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis ta parole. Nous avons des questions cachées à l'intérieur de nous, mais encore ce soir, que tu puisses, à travers ta parole, que nous puissions recevoir la clarté, recevoir ce que nos cœurs ont besoin, ce dont nos cœurs ont besoin. Tu connais chacun d'entre nous et tu ne vas pas nous laisser, tu ne vas pas nous abandonner. Merci Seigneur. Visite nos cœurs, Seigneur. Visite encore ta parole particulièrement, Seigneur. Qu'elle nous donne la force et qu'elle nous communique la foi nécessaire pour pouvoir te servir et t'honorer en tout et partout. Nous voulons demeurer dans cette brèche d'un fils d'une fille de Dieu pour glorifier ton nom, te glorifier partout et en tout. Seigneur, nous t'adorons, nous te donnons gloire, honneur, remerciement. Et ceux qui se confient en toi ne manqueront jamais de rien. Merci pour tout ce que tu nous donnes encore pour ce soir, pour tous les frères, pour les sœurs qui sont présents, pour tous ceux qui vont écouter, que tu puisses bénir chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la lecture du frère Franck, ici, des écrits du frère Franck. Je vais le retrouver. C'est la lettre circulaire 49. Non, c'est pas ça. Un peu plus loin. Voilà. Je crois que c'est la lettre circulaire 55, février 2004. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, comme l'est écrit dans Éphésiens. Nous n'avons, comme il y a les autorités et les puissances qui sont toujours au service des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu, il y a aussi des anges qui contrastent. Ça, il faut le savoir. Nous connaissons ces choses-là. Donc en parlant de cela, j'aimerais lire ce passage des Écritures. Il y a quelques passages, de façon que nous sachions ce qui arrive quand Dieu traite avec ses serviteurs, avec son peuple, pour manifester son plan sur la terre, c'est-à-dire pour agir, conformément à ce qu'il avait établi. Voilà, le diable, Satan, contraste tout le temps pour empêcher tout cela. Donc, nous allons lire Éphésiens 6, 12. Donc, ce n'est pas, notre lutte n'est pas contre la chair, contre le sang et la chair. On ne doit pas combattre physiquement, charnellement. Donc je lis ici, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de cette ténèbre, contre le dominateur de cette ténèbre, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc vous voyez cette position qui se trouve dans l'invisible, là où on ne se rend pas compte, là où les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. On ne voit même pas les anges qui sont au service de tous. Vous voyez? Pour nous faire aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu, on ne voit pas. On ne voit même pas ceux qui sont contre nous. Voilà. C'est là qu'est la lutte. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les armes pour pouvoir lutter contre ses ennemis invisibles. Et vous pouvez aussi continuer à lire. Et aussi Romains 8. Ce sont quelques versets des Écritures pour nous faire voir ce camp. Malgré nous, on vit là-dedans. Si on peut vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, on pourra être plus attentif, plus avisé pour pouvoir lutter et continuer à lutter avec la foi pour toujours lutter contre cet ennemi. Ça, c'est important. Sinon, on se laisse aller. On pense, oui, c'est la volonté de Dieu, alors que non, c'est le diable qui est en train de venir contre nous. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, je voudrais lire Romains 8, 38. Romains 8, 38. Romains 8, 38. Car je suis assuré que ni la mort, ça c'est la partie juste et bonne, hein, la partie qui nous aide ici, la partie de la foi ici. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous voyez? Voilà là où est la lutte. Et cette lutte, on peut dire sans quartier, parce que le diable fera tout pour nous attirer, pour contredire l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur est vainqueur. Voilà, la foi doit avoir cette juste position, cette victoire, de façon que nous puissions lutter contre ces choses. Et aussi, j'aimerais bien lire Éphésiens, quelque chose d'encore plus profond. Éphésiens, où le Seigneur Jésus-Christ a permis toutes choses. Il a vaincu cette bataille. Et s'il a vaincu, alléluia. Toi et moi, Dieu nous a destinés à vaincre. Éphésiens 1, 20. En le ressuscitant d'entre les morts, et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Attention ici, on va pas rentrer ici dans les détails ici de cette position ici. À la droite, c'est pas qu'il y a une deuxième personne. La puissance, évidemment, la droite, c'est la puissance de Dieu. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, seigneurie en italien, domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds. Et il a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée. Alléluia. Nous savons que nous avons un conducteur qui a déjà vaincu, qui a déjà vaincu la bataille, qui a déjà détruit les œuvres du diable. Et nous pouvons, derrière lui, marcher tranquillement vers la vocation à laquelle le Seigneur nous a appelés. Marcher avec la foi et vaincre nous aussi la même bataille. Amen, alléluia. Amen. De celui qui remplit tout, donc, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Colossiens 2:15, il a dépouillé toute autorité, il a dépouillé, c'est-à-dire rendu incapable de rien, de se mouvoir. Humainement, ça paraît difficile. Quand on voit comment on est contredit ici, quand on est attaqué au travail, partout, avec le gouvernement, vous voyez, on est toujours en lutte. Moi, je dis que c'est difficile, c'est une parole difficile, et pourtant, comme il est écrit, elle a dépouillé les autorités. Ça veut dire, ils n'ont plus la possibilité de vaincre la bataille. Amen. Ils ont la possibilité de vaincre selon que toi, tu peux faire, tu vas à la bataille. Vous comprenez? Amen. Mais si Dieu fait grâce, il nous communique, comme il est écrit, il nous communique l'œuvre, la foi dans l'œuvre accomplie à Golgotha, cette même foi d'accomplir les mêmes œuvres. Amen. La victoire, c'est à nous. Elle est à toi aussi. Et on a déjà vaincu. Et c'est, on a déjà vaincu. C'est une réalité. Ça dépend de toi et de moi. Ça dépend de nous. Amen. Mais pour notre Seigneur, tout est fini. Tout est fait. L'œuvre est accomplie. C'est une chose merveilleuse. Amen. Donc c'est pour dire que dans les airs, voilà pourquoi nous-mêmes, donc j'ai aussi écrit dans Éphésiens 2, vous lisez ici, Éphésiens 2, 8, est aussi écrit, si je ne me trompe pas, pardon, 6. Et il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Vous voyez la position que le Seigneur a donnée à son Église, à l'épouse, pour pouvoir contredire l'ennemi, lutter contre l'ennemi, et pouvoir discerner, comment dire, ses manigances, ce qu'il aimerait faire pour nous éloigner de la foi, de la parole, et lutter contre les fils de Dieu. Vous voyez, Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires. Amen. À Dieu soit vraiment toute la gloire et l'honneur. Amen. Encore ce soir. Parce que la victoire est à nous. Amen. Dieu nous l'a donné. Amen. Il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous sommes assis avec lui. Ainsi, nous pouvons voir aussi dans, même dans nos pensées, on peut, quand nous voyons qu'il y a des luttes terrestres et qu'on n'y arrive pas, on peut voir qu'il y a des luttes dans les airs. Et on peut vraiment vaincre la bataille. Amen. Donc c'est la lettre circulaire 55 du frère Franck de février 2004. Donc ici, le thème particulier, c'est le titre du paragraphe. C'est dans les intentions de Dieu d'éclairer tout un public uniquement par les Saintes Écritures. Voilà, tout passe. Mais ma parole demeure éternellement, vous voyez ? Les machinations destructrices de l'ennemi qui tord toute parole dans chaque situation consistent depuis toujours à créer la confusion. Vous avez compris? Moi j'ai souligné ça. Consiste. Donc dans chaque situation, les machinations destructrices consistent toujours à créer la confusion. Il s'agit maintenant, une fois pour toutes, de s'éloigner de l'incertitude. S'éloigner de l'incertitude et essayer vraiment d'avoir la foi que Dieu nous a donnée une fois pour toutes. Comme il est écrit dans Jude, la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Alléluia. Vous comprenez ça? Vous sentez ça? Est-ce que vous le sentez à l'intérieur de vous? Amen. Ce feu, je ne sais pas comment dire, cette certitude, cette assurance. Que cette parole, c'est celle qui vient si toi tu crois. C'est la parole. Pas en dehors de la parole, mais dans la parole, avec la parole. Vous voyez? On continue la lecture ici. Donc, il s'agit de s'éloigner, une fois pour toutes, de l'incertitude. Par grâce, au travers de l'enseignement et de la révélation, nous avons été amenés hors de toute confusion. Par grâce, au travers de l'enseignement et de la révélation, nous avons été amenés hors de toute confusion. Absolument chaque thème, que ce soit la divinité, le baptême, le souper du Seigneur, le retour de Christ, le mariage, etc., a été exposé clairement pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Amen. Ça, c'est une belle parole, de bonne volonté. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Comme David disait, quand je cherche la paix, quand je cherche à être tranquille, voilà, ils me font la guerre. Ça, c'est l'ennemi qui nous fait la guerre, qui nous fait la guerre, nous tous. Voilà pourquoi il faut toujours faire très attention. Donc, je relis. Hein. exposé clairement pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Aucun homme, mais également aucun prédicateur, ne sait de lui-même ce qui est juste. Ça, c'est beau, ça. Ça nous fait devenir petits. Ça nous fait appuyer. Ça nous fait nous tourner vers la force du Seigneur. Ça nous fait devenir petits, ça. Parce que personne, aucun homme, frère Franck écrit, aucun homme, mais également aucun prédicateur, ne sait de lui-même ce qui est juste. Même si l'on connaît tous les passages bibliques, toutes les citations sur chaque thème, en réalité, à moins que cela ne nous soit révélé, on ne connaît rien. Amen, c'est la vérité. Vous voyez. Deutéronome 29 dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Et il a plu à Dieu de révéler ces choses aux petits-enfants. Voyez Matthieu 11, 25. Aux petits-enfants, aux humbles de cœur, de révéler sa parole, simplement. Alléluia. Donc on peut voir comment la révélation est venue. Joël 2, 26, 27. Ça c'est important de comprendre ces choses. Parce que humainement parlant, on est incapable, totalement incapable. Dieu vraiment doit nous faire grâce de pouvoir réaliser premièrement cela. Qu'on est tous des incapables. Le seul qui est capable, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Vous y êtes. L'unique qui est capable, c'est lui. C'est la parole qui est révélée dans ton cœur. Tu la mets en acte, en pratique, tu obéis, tu agis, et alors, tu deviens capable. Tu deviendras capable. L'incapable devient capable parce que tu es en train d'obéir à quelque chose qui te donne un ordre, qui te donne la force, la foi, l'intelligence, la sagesse pour pouvoir le faire. Amen. Alléluia. Je continue la lecture. Si nous avions déjà connu toutes choses, alors le ministère d'un prophète n'aurait pas été nécessaire. Dieu n'aurait également pas eu le besoin d'établir aucun de ses serviteurs et chacun aurait pu être abandonné à lui-même, à soi-même. Sans aucun doute, la révélation par l'Esprit de Dieu ne peut être reçue uniquement que par les humbles, c'est-à-dire par ceux qui reconnaissent que Dieu a établi des ministères dans l'Église, les acceptent et qui, de cette manière, se soumettent à Dieu. Alléluia. C'est simple. Vous voyez ? Un don qui va de Dieu. C'est simplement un instrument entre les mains de Dieu. Et cet homme même ne peut rien faire si ça ne lui est pas donné d'en haut. Juste. Amen. C'est la vérité. Amen. Donc, on dépend tous les uns des autres et nous tous, nous dépendons de l'unique Seigneur, de l'unique Dieu qui distribue ses bénédictions. Il les distribue tranquillement. Tranquillement. Alléluia. Vous voyez ? Donc, je répète, sans aucun doute, la révélation par l'Esprit de Dieu ne peut être reçue uniquement que par les humbles, c'est-à-dire par ceux qui reconnaissent que Dieu a établi des ministères dans l'Église, les acceptent et qui de cette manière se soumettent à Dieu. Paul a été questionné par l'être sur ce thème particulier, 1 Corinthiens 7, 1. Donc, là, il revient un peu dans, avec l'histoire des époux, des mari, des femmes, époux, épouses. Il y a répondu, mais de quoi est-il question dans les passages précédents? Alors, donc, maintenant il répond, mais de quoi est-il question dans les passages précédents? C'est ce que nous trouvons au chapitre 5. Il est question de quelqu'un qui a réellement pris pour femme la femme de son père. Ce n'était pas seulement un péché et une transgression, mais c'était une affaire qui était maudite de Dieu. C'était de l'impudicité, de la luxure. Car il est écrit, « Maudit qui couche avec la femme de son père. » Deutéronome 27, 20. Que Paul livre un tel homme à Satan et qu'il ordonne que personne ne mange avec lui, trouve notre pleine approbation. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir de contact avec une personne semblable. Parce qu'en fait, il est pris par le diable. Il est possédé par le diable. Vous voyez ? À ce moment-là, il est possédé par le diable. Que Paul livre un tel homme à Satan et qu'il ordonne que personne ne mange avec lui, trouve notre pleine approbation. Cet homme était coupable d'impudicité et d'adultère. Ici, convient le passage d'Hébreux 13, 4, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure. Vous voyez comment Dieu tient au mariage? Est-ce que vous voyez comment Dieu tient au mariage? Hébreux 13, 4. Comment Dieu tient en honneur le mariage? C'est un pacte entre un homme et une femme. En réalité, il est indissoluble, en fait. C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 19, « Au commencement, il n'était pas ainsi. » C'est merveilleux, amen. Vous voyez? Pensez un peu. Notre Seigneur, notre époux Jésus-Christ, après avoir choisi son épouse, il vient chez toi, il vient chez moi, et il dit, non, je divorce avec toi, je suis désolé, je ne te veux plus. Est-ce que vous pensez que ça va aller comme ça, que ça va fonctionner? Non. Donc ce que Dieu a choisi, c'est indissoluble, vous voyez, c'est quelque chose qui est établi. Donc il ne va plus retourner en arrière. Donc je continue à lire ici, dans la lettre circulaire. Donc, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Puis Paul développe cette pensée dans 1 Corinthiens 7, 2. Mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Ça, il faut. Bon, on peut dire. On peut exhorter les frères, même qui par exemple, il y a des frères qui aiment la polygamie, qui sont dans ces traditions de polygamie. Il devrait lire ce passage attentivement et voir ce que le Seigneur dit dans sa parole. Vous voyez? Du temps de Jésus, c'étaient les pharisiens qui mettaient le Seigneur à l'épreuve. Maintenant, qui pose les questions? Est-ce quelqu'un dans le besoin ou bien est-ce pour échauffer la discussion? Je relis. Du temps de Jésus, c'étaient les pharisiens qui mettaient le Seigneur à l'épreuve. Maintenant, qui pose les questions? Est-ce quelqu'un dans le besoin, ou bien est-ce pour échauffer la discussion? C'est avec hypocrisie que les scribes posèrent la question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit, pour quel motif que ce soit? Dans Matthieu 19, 3. Dans Luc 16, donc ces passages, Luc 16, 17, 18, vous pouvez les noter et vous les lirez plus tard. Donc dans Luc 16, 17, 18, notre Seigneur met l'accent à l'encontre du même esprit qui caractérise la propre justice des pharisiens, Or, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi tombe. Vous voyez? Donc ce que Dieu a établi, ça va rester, ça doit demeurer, ça ne peut pas être enlevé. Donc, aucun iota. Moi, je relis ici. Je vais relire ce que je vais dire. Donc, il n'y a pas un seul trait de la lettre de la tombe. Puis, revenant sur le propos, il dit, donc Jésus répond, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet adultère. » Dans Marc 10, 10 à 12, on va lire cela. Marc 10 à 12. Marc. Pour nous rafraîchir un peu la mémoire, Marc 10 à 12. Voilà. Et dans la maison encore, ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet. Marc 10, 10, 12. Et il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première. Envers elle. Attention à la parole envers elle. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. Voilà. On retourne à Matthieu 19. Donc, envers elle. Donc contre elle. Envers elle. Envers elle. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a plus lu ces choses. Ben, ça fait un petit moment qu'on lit ce thème-là. Le comportement des uns, des autres, des hommes, des femmes. Donc je relis ici, le frère continue. Le Seigneur dit catégoriquement, quand l'époux peut se rendre coupable dans son propre mariage, donc le Seigneur dit catégoriquement quand l'époux peut se rendre coupable dans son propre mariage, c'est-à-dire, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Matthieu 5, 32. Un homme qui divorce sans la raison biblique occasionne l'adultère de son épouse parce qu'elle se remarie. Je relis, un homme qui divorce sans la raison biblique occasionne ou cause une adultère, l'adultère de son épouse parce qu'elle se remarie. Voilà. Comme les passages bibliques suivants le confirment, même si l'homme en général ne peut pas commettre adultère dans son propre couple, et c'est vrai, il ne peut pas commettre adultère dans son propre couple, il porte la faute de l'adultère de son propre mariage si, de propos délibérés, il divorce car il doit répondre du fait. Il doit répondre du fait que sa femme se remarie. Donc je relis. Donc il porte, donc le frère doit faire des corrections pour l'italien, il porte la faute de l'adultère de son propre mariage si, de propos délibérés, il divorce car il doit répondre du fait que sa femme se remarie. Parce qu'il doit répondre du fait que sa femme se remarie. Donc c'est un peu comme s'il prenait la faute. Donc il prend la faute, il porte la faute en fait. Parce qu'il doit répondre de ce fait. Parce que sa femme se remarie. Comme éclaircissement final ou définitif, que les passages suivants soient encore cités. Car ainsi dit le Seigneur. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Exode 20, 14 à 17. Alléluia. Ça, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas la changer. Un autre passage, je continue à lire. Ainsi dit le Seigneur, et un homme qui commet adultère avec la femme d'un autre, etc. Lévitique 20, 10. Encore un autre passage. Et le Seigneur dit encore, si un homme a été trouvé avec une femme mariée, Deutéronome 22, 22, dans la langue hébraïque, la femme, au sens général, est désignée par un mot particulier, comme en anglais, celui de woman, femme, qui vient de man. On peut dire signorina en italien. Donc on peut dire isha, on peut dire homme, femme. Voilà, une femme. En anglais, woman, une femme. Une femme en général, caractère féminin. Alors que le mot est différent pour celle qui est mariée. En anglais, on dit wife, une épouse qui est mariée, une femme qui est mariée. Pour cette raison, tous ceux qui connaissent la différence traduisent, comme dans la traduction du docteur Hermann Menge, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme mariée pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Vous voyez comment la chose est vraiment profonde. Comment dire? Pour tenir la pureté d'un cœur, vraiment il est nécessaire qu'on écoute et qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Alors tu garderas ton cœur saint, ton cœur pur, et tu seras tranquille. Et tu seras tranquille, oui. Je continue la lecture. Non seulement Moïse et le Seigneur Jésus, mais aussi Paul et Pierre ont consacré leur attention au thème du mariage et exposé la position différente de l'homme et de la femme. Paul écrit que, par exemple, une femme mariée, aussi pendant le temps de la grâce, est liée légalement, en italien juridiquement, à son mari aussi longtemps qu'il vit. Bon. Donc, il y a aussi sous la loi, aussi sous la grâce. Romains 7, 2 et 3. 1 Corinthiens 7, 39. Il poursuit en disant, « Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, je leur ordonne ou je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée de son mari. Et si elle l'est séparée, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari n'abandonne pas sa femme. » 1 Corinthiens 7, 10 et 11. L'unique exception est celle-ci, faites bien attention, l'unique exception est celle-ci, mais si l'incrédule s'en va, le non-croyant s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas. En italien, ne sont pas asservis à l'esclavage, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Donc, que ce soit l'homme infidèle ou la femme incrédule, l'homme incrédule, la femme incrédule peuvent partir dans 1 Corinthiens 7, 15, et c'est là qu'on peut, ils peuvent se remarier librement, tranquillement, ils peuvent se remarier. Vous avez compris ça. Si ensuite, donc je dis ça, si vous n'avez pas compris, on peut en parler à travers les Écritures tranquillement. Donc seulement pour ce cas-là. Parce que maintenant on continue, on doit aller de l'avant, on continue ici. Dans Éphésiens 5, 21 à 33, et 1 Timothée 2, 11 à 15, les relations entre mari et femme sont longuement décrites. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. Éphésiens 5, 22. Pierre aborde rapidement ce thème, mais de manière énergique. 1 Pierre 3, 1 à 7. Vous pouvez noter ces passages. Vous l'avez déjà entendu, cela. Mais peut-être pour les autres. Nulle part, nous ne trouverons dans un seul chapitre une vue d'ensemble sur ce sujet. Voilà pourquoi il faut voir dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il faut voir dans Matthieu, dans Luc, dans Corinthiens, il faut aller dans Pierre, vous voyez. On saute un peu par-ci, par-là. Vous voyez. Parce que il n'y a pas un schéma. Voilà, tout le schéma est là. Non. Voilà pourquoi beaucoup de frères sont, comment dire, ils n'arrivent pas à bien se concentrer, à bien cerner la situation globale. Et voilà, il arrive beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà. Je continue. Dieu a voulu cela afin qu'à chaque cas soient employés les passages correspondants se trouvant dans la parole de la vérité. Vous voyez ? Une chose est sûre, tous ceux qui ont des problèmes et qui posent sincèrement des questions reçoivent du Seigneur la réponse juste. Celui qui est animé par d'autres motifs et pense déjà tout savoir ne connaîtra jamais ce qui est juste. Vous voyez ? Nous. Donc il y a un seul maître de mesure, c'est l'Écriture. C'est par ça que nous allons ici et là. Mais on ne peut pas aller de la confusion parce que il y a un seul objectif, c'est l'obéissance à la parole de Dieu et rester dans l'atmosphère de les paramètres des Écritures. Vous voyez, ça c'est important. Donc celui qui est animé par d'autres motifs et pense déjà tout savoir ne connaîtra jamais ce qui est juste. Nous devons tous travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2. Ne serait-ce pas propre partout si chacun balayait devant sa porte? Voilà la phrase, c'est une question. Ne serait-ce pas propre partout si chacun balayait devant sa propre porte, sans s'occuper des affaires des autres? Ça, c'est important. Sans s'occuper des autres, des affaires des autres. Alléluia. Tous ceux qui sont demeurés épargnés du pire, de ce qui peut arriver à un être humain, un humain, ici sur cette terre, devraient chaque jour remercier Dieu à genoux. Vous comprenez qu'ils devraient remercier chaque jour Dieu à genoux parce qu'il a été épargné. là où d'autres sont passés. Parce que des fois, il faut passer par des chemins difficiles. Comme on a lu ici, que le frère Franck aussi a passé par des chemins difficiles aussi, à cause de ce qui s'est passé dans son assemblée, avec les fausses prophéties, etc., etc. Toutes les mauvaises langues, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été semé de mauvais, vous voyez. Comme on l'a dit, quand il y a une œuvre de Dieu, le diable, là, dans le lieu céleste, il est toujours là, prêt à attaquer. C'est là qu'il faut vraiment faire attention. Donc je répète la phrase, tous ceux qui sont demeurés épargnés du pire, de ce qui peut arriver à un être humain, ici sur cette terre, devraient chaque jour remercier Dieu à genoux. Pensez un peu, David, Joseph, Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, il voulait une femme. Voilà, il y en a deux sur ses bras. Prenez Joseph. Joseph, il a été tenté, donc il n'est pas tombé dans la tentation. Mais voilà, lui aussi, il a dû passer par une certaine voie et résister à toutes les attaques du diable. Donc il y a eu diverses situations où tout le monde a eu affaire avec quelque chose de ce genre, vous voyez? Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Proverbe 24, 27. Prenons Proverbe 24, 27. Proverbe 24, 27. Proverbe 24, 27. Prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ. Et après, bâtis ta maison. Donc, prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ. Ici, c'est pas seulement l'histoire de campagne, l'histoire des affaires personnelles. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ensuite, bâtis ou édifie ta maison. Tu peux compatir, tu peux aider, tu peux édifier ta maison. Sinon, tu ne sais pas édifier ta maison, construire ta maison. Ça veut dire, si tu as toujours l'esprit accusateur, si tu es toujours là, avec le doigt en train de pointer les gens, sans connaître bien les situations. Mais le Seigneur connaît. Et un Thessalonicien, 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Thessaloniciens 4, 6. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui est important ici. Il y a des passages dans la vie qui sont passés chez les gens. Regardez David, regardez un peu sa vie, toutes les situations qui lui sont arrivées. Je continue à lire ici, le frère Franck. Lequel d'entre nous aurait-il eu à la pensée que Dieu ait donné dans les Saintes Écritures, sur ce thème si important, des instructions particulières aux hommes auxquels ils doivent se tenir? De même, qu'il a dit des choses aux femmes qui sont obligatoires pour elles. Vous voyez? Voilà où est la révélation aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi? Voilà pourquoi dans mariage et divorce, quand Dieu lui a donné le « ainsi dit le Seigneur au frère Branham », faites attention, il a dit maintenant, si, fini, assez, vous êtes pardonné. Donc le ciel vous attend, l'éternité vous attend, le royaume de Dieu vous attend, vous avez compris? Mais, parce que la connaissance est venue, la révélation, la connaissance est venue, la parole est venue, la grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Dieu est un grand pardonneur, quelqu'un qui pardonne abondamment. Et maintenant, nous avons la connaissance de ces choses. Nous connaissons les passages des Écritures et hop, directement, on se met en règle. Voilà, nous sommes en règle. Amen. Alléluia. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses. Voilà. Où est le ainsi dit le Seigneur de notre Dieu lui-même. Je lis encore ici. Donc en parlant des hommes, Dieu a donné des instructions aux hommes auxquels doivent se tenir de même qu'il a dit des choses aux femmes qui sont obligatoires pour elles. Les rôles ne doivent pas être échangés parce qu'ils sont ordonnés de Dieu. Les rôles ne doivent pas être échangés parce qu'ils sont ordonnés de Dieu. Ainsi, la femme ne doit, dans aucune condition, s'arroger l'autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, 11 à 15. Donc c'est une chose établie, fondamentale. Et de là dépend l'harmonie de la famille, la communion, la prière. De là dépend l'édification des enfants, la croissance, tout. Voilà pourquoi tout doit être à sa place. Et si tout est à sa place, croyez-moi que même les enfants viendront aussi, trouveront aussi leur place. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est... il y a encore, même dans les familles chrétiennes, il y a encore des défauts, des choses qui ne sont pas encore... selon ce que dit l'Écriture ici, que Dieu a donné à leurs femmes des choses obligatoires, des choses qui sont obligatoires pour elles, tout comme les choses pour les hommes doivent être aussi suivies par eux. 1 Timothée 2, 11 à 15, on a déjà lu ça et on connaît ce passage des Écritures. Ce qui demeure est que, mais je veux que vous sachiez que le chef de l'homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu, car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Vous voyez, 1 Corinthiens 11, 3 à 9, voilà, tout est dans les Écritures, tout est écrit dans les Saintes Écritures. Et nous tous, on peut se plonger, s'immerger dedans et dire, oui Seigneur, ça c'est ta volonté. Amen. Amen, voilà. Voyez? Même les prédicateurs, faites bien attention ici, même les prédicateurs n'ont pas pu établir l'ordre divin. Mais ils ont jugé d'après les traditions reçues. Même frère Branham a dû reconnaître qu'il n'avait pas su la chose. Jusqu'à ce que le Seigneur ne la lui ait révélée. Alléluia, vous y êtes? Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous connaissons la vérité. Nous avons reçu la révélation, et c'est une grande bénédiction. C'est une assurance. Parce que la connaissance, la révélation de la parole de Dieu, te conserve, il te donne des précautions, ça te protège. Tu es protégé parce que tu te caches derrière la parole de Dieu et tu vas de l'avant pour le servir et l'honorer. Vous voyez? Donc je répète, même frère Branham, donc il a dû avoir cette prédication mariage divorce. Pensez-vous, on a lu ça sur Junior Jackson. Excusez-moi, c'est Jackson. Oui, Jackson. Donc, celui qui est venu en Allemagne, et moi-même j'ai pu le connaître personnellement. Le frère Branham a dit que c'est un brave ami et que Dieu a utilisé cet homme lors de la révélation de cette sceau. Et Dieu l'a parlé de cet homme. Et pourtant, lui, il avait épousé une femme qui était divorcée. Il avait épousé une femme qui était divorcée, c'est vrai. Donc lui aussi, on peut dire que de toute façon, il était adultère. Mais lui, il n'était pas... Mais peu importe ça. Mais c'est pour vous dire, voilà. Voilà comment ce serviteur de Dieu soupirait, ce prophète de Dieu soupirait, demande à Dieu la révélation de la vérité. Vous avez compris ça. C'était nécessaire. faut remettre tout en place, toute chose à sa propre place. Ça, c'était nécessaire. Mais pas que lui, il y avait aussi d'autres, non. C'est Sidney Jackson. Sidney Jackson, junior, c'était un petit. C'était son fils qui avait son église à Jefferson, je pense. Je parlais de Sidney Jackson. Voilà. Donc cette chose est importante. Donc même, je relis, même frère Branham a dû reconnaître qu'il n'avait pas su la chose et Dieu a dû lui révéler. Moi je crois, comme vous aussi vous le croyez, je crois fermement de tout mon cœur. Quand Dieu révèle une chose, parce que c'est une révélation. C'est une révélation. Donc, ça aussi, ça doit nous être révélé. Et quand c'est révélé dans le cœur, c'est scellé dedans, ça devient un tout. Et ça ne part plus, c'est fini. Et on trouve la paix avec Dieu, l'assurance, et on glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Mais il doit y avoir cette révélation. Parce que sinon, on lit là, on lit ici, on lit là, et tu es un peu dans la confusion. Tu lis un peu ici, tu lis un peu là. Mais quand c'est révélé, et surtout quand il y a une expérience négative qui est faite, et que Dieu nous révèle la position du pardon, alors là, on est déjà au 7e ciel, disons, une façon de parler, on est déjà dans. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Donc je voudrais lire Psaume 119, 130, Psaume 119, verset 130. On sait tous ce que ça nous dit, le psaume 119, 130. Ce qu'on lit ici, dans toutes ces soirées des jeudis que nous lisons, et on lit ces explications, ces mises au point, ces remises au point du frère Franck, ce sont des grandes bénédictions. Je crois que c'est des grandes bénédictions pour moi, au moins, mais pour vous aussi, sûrement. Où chaque chose revient à sa place. Et on a la confirmation de la parole des Écritures. Et on se réjouit de cela. Vous voyez? Et on va de l'avant avec cela. Psaume 119, 130. L'entrée de tes paroles. Ou bien la déclaration, ou bien la révélation de tes paroles illumine. Donc, une révélation, en italien, la révélation de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence au simple. Alors, donc je lis un peu l'italien et un peu l'allemand. Moi, j'ai le frère Franck lit Menge, moi je lis Darby. Parfois, quand je lis le calendrier des fois le matin, les Écritures, je trouve Darby plus complet, plus précis que ma Diodati italienne. Même si j'estime beaucoup la Diodati italienne, ça fait plus de 45 ans que j'ai la Diodati. Mais voilà. Parfois, il faut changer un peu les choses. Romains 16, 25. C'est important ici, regardez. Romains, je vais prendre une Bible ici. Romains 16, 25. Donc le frère Franck a parlé de ce thème. Lisons Romains 16, 25. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile. Donc, je traduis à partir de la Darby en italien. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère. À l'égard duquel le silence était gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, au Dieu qui est seul, au Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen. Amen. Vous avez suivi? Amen, c'est important. La Diodate, si des fois, je ne sais pas comment vous l'avez, et à celui qui peut m'affermir selon mon évangile et la révélation, la prédication de Jésus-Christ. Mais dans la Darby, c'est pour dire que maintenant, dans les derniers temps, cette chose est arrivée. Et on a la clarté de toute chose. La clarté des mystères de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Que Dieu vraiment reçoive toute la gloire. Éphésiens 1, 17. Nous allons lire Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, etc. Vous voyez combien on a besoin dans chaque chose de révélation. Voilà pourquoi Dieu, dans ces derniers temps, nous a fait grâce. Voilà pourquoi il a dû envoyer, et il a envoyé un prophète. Voilà pourquoi les sept sceaux ont été ouverts. Voilà pourquoi le livre de la rédemption a été ouvert. Voilà pourquoi vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que Dieu nous a révélé tout cela. Ça devait être comme ça. Ce n'était pas au temps de Luther, ça n'a pas été au temps de Wesley. Même pas à Azusa Street, quand il y avait le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a pas été. Tout ça n'a pas trouvé leur place. Maintenant, la grâce nous a été donnée de connaître tout cela. Et c'est vraiment une grande grâce. Amen. Bien, Corinthiens 2. Un merveilleux passage de 1 Corinthiens 2. On y retourne souvent dans 1 Corinthiens 2. Au verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Important. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas vu, comme nous tous. Et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Pour dire, ah, c'est moi qui ai eu ça. Non. Ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Donc ce n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas une intelligence. Ce n'est pas votre capacité. Mais c'est l'esprit de Dieu venant en nous, en vous. Illumine votre cœur. Illumine votre esprit. Il vous révèle la parole. Alléluia. Il vous révèle ce qu'est mariage, divorce, etc. Nous continuons la lecture. Donc le frère Franck écrit aujourd'hui encore, et même parmi les personnes dans le message, beaucoup ont de la peine à accepter ce que le Seigneur, en conformité, en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament, a révélé à son serviteur et prophète. Moi, j'en ai l'expérience. Moi, je peux le témoigner, que beaucoup n'acceptent pas certaines choses de la révélation que le Seigneur a donnée au frère Branham, des révélations bibliques, c'est-à-dire appuyées sur les Écritures. Ils ne les acceptent pas. Mais ils disent, les temps sont passés, et alors petit à petit, donc des croyants du message, ils ont des difficultés à entrer pleinement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu nous aide. Il nous fait grâce pour pouvoir obéir à toute la parole. Ça, c'est très important, vous voyez. Beaucoup de personnes ont de la peine à accepter ce que le Seigneur, en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Pensez un peu Osborne, Oral Roberts. Pensez à d'autres serviteurs de Dieu qui étaient là et qui étaient même avec, dans le même chemin avec le frère Branham. Il marchait étroitement avec lui, ils étaient là, ils suivaient un peu, vous voyez. Mais ils ont accepté les signes et les miracles. Ils ont accepté certaines choses, mais ils n'ont pas tout accepté. Ils n'ont pas accepté tout. Ils n'ont pas, peut-être, ils n'ont même pas accepté le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça aussi, c'est important, vous voyez. Amen. Donc, les uns déduisent de l'exposé de frère Branham la doctrine absurde de la polygamie. Voilà, ici on y revient encore. Les autres demeurent prisonniers d'anciennes traditions. Le thème a été traité d'une manière étendue et suffisamment claire dans la prédication mariage-divorce et n'a véritablement pas besoin d'explications supplémentaires. Je n'ai rédigé la brochure Le mariage, problème ancien, qu'en raison de questions qui m'avaient été posées sur des problèmes d'actualité liés à ce thème. Celui qui est concerné lise dans la prière les deux traités ainsi que les passages bibliques cités ici et qu'il se laisse donner par Dieu la clarté nécessaire venant de sa parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que le cœur s'ouvre, qu'il s'ouvre et que Dieu parle et que Dieu nous parle. Amen. Je continue encore à lire ici. Comparaison. Le titre du paragraphe, comparaison. Le frère Franck écrit, nous devons exposer et dire ici une fois clairement qu'il existe des frères qui courent le monde entier en se réclamant de frère Branham qui se spécialise sur des thèmes particuliers mais qui n'estime pas la parole comme seule absolue. Et ça, on l'a tous vu. On a tous vu cela. Et même dans les enseignements, au lieu de prendre la parole de Dieu, les Écritures, et s'appuyer avec les Saintes Écritures pour voir ce que les prédications de frère Branham nous apportent, alors, eux, ils lisent que des citations du prophète. Moi, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Parce que le jour où il y avait un jour une réunion à Lausanne, dans les collines de Lausanne, il y avait aussi le père Green, il y avait le prédicateur principal, il est venu. Donc il y avait aussi le frère Franck qui était là. Il y avait le frère Marillier et d'autres frères. Le frère Kupfer était là aussi. Alors lui est venu avec une pile de brochures et il n'a rien fait d'autre. Plus d'une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure. Il n'a fait que citer des citations de frère Branham. Il n'a jamais ouvert la Bible. Il n'a jamais ouvert la Bible. Faites attention. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort, ça. Et celui qui pouvait ouvrir la Bible, on ne l'a pas permis. On ne l'a pas permis d'aller au pupitre et d'ouvrir la Bible. C'est grave, c'est très grave, ça. Il faut avoir vécu ces choses-là. Je ne sais pas comment dire. Et voyez comment le diable essaie de freiner l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a des frères, ce réclamant de frère Branham, qui se spécialisent sur des thèmes particuliers, qui n'estiment pas la parole comme seule absolue. Souvent, la Bible est même tout à fait mise de côté. Et seules les citations de frère Branham sont employées. Citations qu'ils tordent, d'ailleurs, pour leur propre ruine. Comme cela est déjà arrivé du temps de Paul, 2 Pierre 3, 16 à 18. Comme il est écrit que Paul a des paroles difficiles que beaucoup tordaient de ses prédications, de ses paroles. Parce qu'il ne comprenait pas ses paroles et la tordait. Mais Jean 17:17 dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Juste par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas une écriture qui nous confirme exactement ce qui est dit, vous vous basez alors sur du rien. Voilà pourquoi la parole, c'est-à-dire les citations, n'ont pas de force, n'ont pas de pouvoir pour pouvoir changer les cœurs et les transformer et les apporter à l'image de Christ. Non, il n'y a aucun pouvoir. C'est seulement la parole qui est ce pouvoir, cette puissance. C'est seulement la parole crue, acceptée de tout le cœur, qui a un pouvoir, qui a le pouvoir de changer les cœurs et de les mettre en harmonie avec toutes les écritures. Alléluia. Et ça, c'est vrai. C'est seulement la parole de Dieu. Croyez-moi. Croyez-moi. Moi, j'en ai fait l'expérience depuis un petit moment. Et vous aussi, sûrement. Et ceux qui écoutent, ils écouteront aussi. Ils feront aussi des expériences comme ça. C'est nécessaire, vous voyez? C'est important. Donc, souvent, même, la Bible est tout à fait mise de côté. Et seules des citations de Frère Branham sont employées. Citations qu'ils tordent, d'ailleurs, pour leur propre ruine, comme cela est déjà arrivé du temps de Paul, de Pierre 3, 16 à 18. Et c'est ainsi que de fausses doctrines sont répandues les unes après les autres. Certains prétendant que le Seigneur Jésus serait déjà revenu en 63. Il y avait aussi l'histoire de 1977. Donc, cette histoire que le frère Franck, même avant cette année 1977, il avait déjà dit que cette chose était une chose qui venait du diable. Et c'était des faux prophètes, des fausses prophéties. Toujours des choses qui venaient des hommes. Comme Apocalypse 17. Apocalypse 17. Les sept tonnerres. Les sept tonnerres ont été révélés, mais question des sept tonnerres, etc. Hein, les sept tonnerres, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et les sept sceaux, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, à chaque fois qu'on parlait avec eux, il y avait toujours quelque chose en plus, quelque chose de différent qu'ils apportaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient rien confirmer par la Sainte Écriture. Allez, vous avez compris. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide tous à confirmer toutes choses par les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Amen. Vous y croyez? Alors à ce point-là, on peut dire, l'unique mesure qui ne passera jamais, ciel et la terre passeront. Matthieu 24 dit cela. Ciel et terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. Ici, il parle de 63. D'autres affirmant que frère Branham va ressusciter et tenir des missions sous tente. Toutes les doctrines sur ce qu'on appelle la révélation des sept tonnerres, sur la parousie et sur toute autre sorte de sujet ne se trouvent pas davantage dans les prédications de frère Branham que dans les Saintes Écritures. Visiblement, il arrive aussi dans notre temps ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11, 1 à 4. D'un côté, le ministère de l'apôtre, marqué par « Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. » Et de l'autre côté, ce qui concerne ceux qui prêchent un autre évangile et agissent avec astuce. Ils prêchent un autre Jésus et se trouvent sous l'influence d'un esprit d'une autre espèce. Amen. Alléluia. Voyez, comme il est écrit, je vous ai fiancé. Comme une vierge sage, mais je crains que le serpent séduise, etc., etc. On parle de cela. Pour cette dernière période de temps, l'apôtre Paul dit à l'avance que seraient apparus des hommes comme Jannès et Jambres, et qu'ils se seraient élevés contre la vérité, pas contre le prophète. Dans Nombre 16, 12 à 17, nous pouvons constater au travers de quelles épreuves l'homme qui avait reçu le mandat divin devait aller. Vous voyez? Comme je disais tout à l'heure, nous, on n'est pas des franquistes, mais on peut voir comment la parole vient à nous, et on peut voir comment la réalité, le témoignage, disons, confirme ce qui a été fait à travers cet homme, à travers le Seigneur, mais cet homme de Dieu. On peut voir combien de souffrances on peut avoir cet homme. Lorsqu'il a pris en main, on l'a pris sur lui, ce poids de ces faux prophètes, de ces fausses doctrines, etc. On peut comprendre cela. Dans Nombre 16, 12 à 17, moi je crois que le seul lieu où, quand Moïse a prié, il a prié le Seigneur, et on voit que Dathan et Abiram, ils étaient venus en voulant contester le lieu, l'endroit, ils sont descendus dans les enfers avec leur tente, leur maison incroyable. On dirait un film, comment dire, un film d'horreur, disons. Vous avez compris cette image. Mais c'est écrit dans la Bible. Ils sont descendus dans les lieux infernaux, tous, engloutis tous, avec toutes leurs choses. Donc directement, pas qu'ils sont morts d'abord, regarde un peu, directement, dans l'enfer. Comment le diable prend l'esprit d'un homme, les tords, et il leur fait faire des choses qui sont vraiment bizarres. Mais Dieu fait grâce aux humbles, il nous a fait grâce. Je le dis vraiment de tout mon cœur, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes encore ici dans sa présence. Nous sommes toujours ici en train de lire des choses merveilleuses. Même si parfois on dirait que c'est un peu compliqué, mais c'est merveilleux. Voilà où Dieu défend ses enfants. Ses enfants. Vous voyez? Et il éloigne l'ennemi. Donc cette parole, je voulais lire ici dans Exode 7. Je voulais lire dans Exode 7. On s'est trouvé ce qui s'est passé. Exode 7. Il est 9h16. Exode 7. Donc c'est ce qui s'est passé quand je me suis présenté à Pharaon et où Jabès et Jambres se sont opposés à Moïse. Mais à la fin, vous connaissez l'histoire, à la fin, ils ont dit que ça, c'était la main de Dieu, on ne pouvait rien faire contre. Le diable même a dû se rendre, il a dû se rendre. Fini. Et ici, en continuant, donc ici aussi dans Deutéronome, et aussi Nombre 16 aussi, ça on peut le lire, lisez-le vous-même dans Nombre 16, on peut voir l'épreuve par laquelle passait l'homme qui avait reçu le mandat de Dieu. Donc ici, je lis le frère Franck qui continue ici. Dans Nombre 16, 12 à 17, nous pouvons constater au travers de quelles épreuves l'homme qui avait reçu le mandat divin devait aller. Nous n'aurions jamais entendu parler de la bande de Corée, ni de Dathan et d'Abiram, fils d'Eliab, si ce n'avait pas été en rapport avec l'exécution d'un ministère concernant l'histoire du salut. Ces hommes qui appartenaient à l'assemblée d'Israël, qui étaient même ordonnés dans le sacerdoce lévitique, s'élevèrent cependant avec divers arguments. Ça vous fait penser à quoi? Encore maintenant, c'est comme ça. Des gens qui appartiennent au même message. Ils s'opposent encore à la parole de Dieu. Ils viennent encore s'opposer à la parole. Ils contrastent toujours. Afin que le service de Dieu, le juste service que Dieu a destiné à l'épouse de Jésus-Christ, qui ne puisse pas être manifesté correctement, ayant empêché et toujours contrasté et contredit. Et encore aujourd'hui, ça existe. Et Dieu doit faire grâce de nous éloigner de ces personnes-là. C'est-à-dire de voir leur but, leur objectif, de voir leurs intentions et de pouvoir s'en éloigner, chercher à s'en éloigner. Et Dieu doit nous aider de manière que la parole de Dieu ne soit pas freinée, que l'œuvre de Dieu ne soit pas contrastée, elle ne soit pas opposée, et qu'on puisse nous servir en tout, en esprit et en vérité. Alléluia. Donc ces mêmes frères, prédicateurs, bon, on continue dans la lecture, ces hommes qui appartenaient à l'Assemblée, qui appartenaient à l'Assemblée d'Israël, qui étaient même ordonnés dans le sacerdoce lévitique, s'élevèrent cependant avec divers arguments contre Moïse et Aaron. Et il est dit d'eux qu'ils ont méprisé l'Éternel. Nombre 16, 30. Ils ont méprisé l'Éternel. L'apôtre Paul écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, sur ceux qui s'attachent à des esprits séducteurs et enseignent des doctrines de démons. 1 Timothée 4. Encore aujourd'hui, ça existe. Et il est écrit sur Hyménée et Philète, qui avaient fait fausse route parce qu'ils prétendaient que la résurrection avait déjà eu lieu par leur doctrine semblable. Attention, j'ai souligné ceci. Faites attention. Dieu sait que nous, nous, nous tenons à ça, que nous sommes attentifs, que nous faisons attention à cela. Par leur doctrine semblable à la gangrène qui ronge, la gangrène qui ronge. Ils renversèrent la foi de plusieurs, ils ont renversé la foi de plusieurs. Attention, c'est vrai ça, c'est réel. Ils ont permis qu'ils ont intervenu et ils ont scandalisé les gens. Et ils ont dévié, ils ont fait dévier des trajectoires à cause de leur méchante interprétation de frères. Et ça, c'est vrai. De Timothée 17 et 18. Maintenant, une autre partie ici, l'apôtre Jacques. On parle de ceux qu'on ne pouvait rien faire. Mais il y a encore d'autres pour qui on peut encore faire quelque chose. Dieu doit nous faire grâce d'aider ceux pour qui on peut faire quelque chose. Maintenant, on va continuer à lire ici. L'apôtre Jacques écrit sur ceux qui se sont égarés loin de la vérité, mais qui éventuellement pourraient être ramenés de leur égarement à la fin. Jacques 5, 19 et 20. On va lire cela. Pierre écrit sur de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition. 2 Pierre 2. L'apôtre Jean écrit sur ceux qui se sont séparés de nous et sont sortis du milieu de nous. 1 Jean 2, 18 à 17. Vous voyez? Mais il y a un type de personnes qui encore aujourd'hui, on veut le croire parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Regardez. Prenez Jacques 5. Jacques 5. C'est important. C'est pourquoi il faut toujours continuer à prier. Continuer à insister. 5. Jacques 5. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc il y en a par exemple qui n'ont pas l'intention, mais que Dieu le récupère et Dieu le ramène sur le chemin. Alors, à nous tous, Dieu nous aide à apporter la juste parole pour pouvoir sauver cette parole, pour le ramener dans la juste position. Et s'il le désire, toujours s'il le désire. Donc voyez, ça c'est un type de personne. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc ici, Jude écrit à nouveau ouvertement, verset 12, sur des moqueurs qui, tout d'abord, avaient pris part à l'agape et qui ensuite avaient provoqué des divisions dans l'église. Vous voyez, un peu, ils sont encore avec nous, un peu, ils mangent avec nous, ils boivent avec nous, ils ont communion, et ensuite, ils causent des divisions. Ça, c'est vrai. Il faut le dire, il faut en parler. Il faut en parler, c'est juste. Sans accuser personne. Mais ça existe, ce sont des choses qui existent. Même dans Apocalypse, chapitre 2, non, moi j'avais noté 2, 14, il nous est parlé d'hommes qui sont comparés à Balaam, avec son enseignement aux Nicolaïtes et à ce qu'ils enseignaient. Et les mêmes questions d'une femme, Jézabel. Voilà, la sœur Déborah avait posé la question sur Jézabel, qui se présentait comme prophétesse et docteur et enseignante. Une enseignante, docteur, une doctoresse enseignante. afin de séduire les serviteurs de Dieu. Cependant, l'ordre divin subsiste toujours. C'est que Dieu a établi dans l'Église uniquement des apôtres, pas d'apostolines. Un peu, frère Branham, un peu des mots comme ça. Mais, donc des femmes apôtres, mais ça n'existe pas, ça, des femmes apôtres. Uniquement des prophètes, pas des prophétesses. Uniquement des docteurs, pas des doctoresses, etc. 1 Corinthiens 12. Alléluia. En vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, accompli, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, la mesure de la stature de la plénitude du corps de Christ. Éphésiens 4, 11 à 13. Donc cette parole de Jézabel, ce mot Jézabel, un petit mot sur cette femme Jézabel. Pas seulement c'est cru pour une prophétesse, parce que dans l'Apocalypse, comme on l'a lu au chapitre 2, il le dit, c'est pas, non seulement elle se prenait pour une prophétesse, mais elle a même fait dévier, elle a fait dévier beaucoup, beaucoup de personnes, surtout son mari, surtout le roi Akab, qui était le plus méchant de tous les rois dans l'histoire de l'Ancien Testament d'Israël, le plus mauvais que Israël ait pu avoir à ce moment-là. Et il a épousé cette femme étrangère, cette femme qui était étrangère. Et c'est comme ça que, c'est pour ça que Dieu donne toujours des justes positions, des paramètres, c'est-à-dire toujours revenir à la parole, écouter la parole. Ça, c'est important. Je finis donc ce morceau. Et ensuite, nous terminons. Par conséquent, ce que nous avons vécu ici au centre missionnaire à Krefeld, les 5 et 6 mai 1979, lorsque deux hommes se levèrent pour, comme ils le dirent, décapiter le sommet, c'est-à-dire la tête. Par cela, on désignait frère Franck, frère Rousse et frère Schmitt. C'était une attaque directe de l'ennemi contre la communauté. Les deux hommes commissionnés derrière notre dos par deux prophétesses, entre guillemets, s'élevèrent contre les serviteurs établis par Dieu. Ainsi, Satan se glissa sur le podium afin que s'accomplisse l'écriture que Paul avait annoncée par l'Esprit, par là de Jannès et Jambres. Nous ne pouvons pas oublier toutes les bénédictions particulières. Il y a une chose qui m'a touché, qui me touche toujours. Quand je lis, je dois le dire de tout mon cœur. Je l'ai vécu. Et je dois le dire, parce que c'est très important. Il y a toujours une partie négative qui vient après une bénédiction. Ça a toujours été comme ça, pour tout le monde. Quand on s'approche, c'est-à-dire du Christ, quand on s'approche de la parole de Dieu, à la révélation, qu'on cherche de marcher dignement, convenablement dans la parole, avec l'obéissance de la foi, alors naturellement l'ennemi vient et il cherche de nous combattre, comme on l'a toujours dit. Ça, c'est important à savoir. Donc, cette parole est merveilleuse. Nous ne pouvons pas oublier toutes les bénédictions particulières des années 70 que nous avions vécues dans la présence de Dieu. Mais quand se répéta la parole, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Matthieu 26, 31. Une séparation eut lieu dans des couples, des familles et dans toute la communauté. Voilà. À partir de ce moment-là, quand il y a eu cette action-là. Moi, je l'ai vécu. Et beaucoup sont partis qui étaient là, qui étaient avec nous. Elles ont été scandalisées. Ils ne croyaient plus aux serviteurs de Dieu, au frère Franck, que Dieu avait, à qui Dieu avait confié l'objectif d'apporter la parole de Dieu partout, de ville en ville, de pays en pays, etc. Et donc, il y a eu un grand chaos. Et je me souviens de ce Rina disait le chaos. chaos. Je sais pas si c'est en anglais. Elle utilisait ce mot-là. En anglais, chaos, je crois. Elle disait souvent le mot chaos, c'est-à-dire la confusion totale. Et c'est là que beaucoup, beaucoup se sont séparés. Et c'est à partir de là qu'est venue cette grande scission. Et où, encore jusqu'à aujourd'hui, ils combattent le serviteur de Dieu. Et les serviteurs de Dieu. Voilà. Alléluia. On continue un peu à lire. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Matthieu 26, 31. Une séparation eut lieu dans des couples, des familles et dans toute la communauté. Ces dégâts ne peuvent être réparés que par Dieu, au travers du pardon et de la réconciliation, afin que la haine et l'inimitié soient mises de côté. Alléluia. Vous voyez ? La haine et l'inimitié soient mises de côté. Quand on fait valoir notre propre justice, quand on fait prévaloir nos propres enseignements en dehors des Écritures, alors là, il y a cette séparation qui arrive. Quand il n'y a pas de révélation de l'Écriture, le peuple est sans frein. Il tombe, il marche dans l'obscurité. Ça, c'est vrai. Quand il n'y a pas de révélation, c'est ça qui se passe. Voilà pourquoi, parce que si moi je dépends des lèvres, je ne sais pas quand on a dit ça, je ne me souviens plus. Quand on veut dépendre des lèvres d'un homme, ok, ça va. Mais si cet homme, si je ne reviens pas aux Écritures, et que moi-même je comprends par les Écritures ce que ces lèvres sont en train de prêcher, un jour je serai dans la confusion, je serai confus, je serai vraiment dans la honte. Vous avez compris? C'est important. Même ce que le frère Franck a dit, même ce que le frère Branham a dit, même le frère Franck, il a repris. Donc il a aussi pris des passages pour expliquer. Nous aussi, on fait comme ça. On revient, on analyse dans les Écritures. On revient dans les Écritures. L'homme. Donc j'ai écrit ici. J'ai écrit que l'homme est toujours un intermédiaire. C'est toujours un intermédiaire. Un outil, un moyen. Bon. Les églises. Donc quand il y a des gens qui forment une assemblée, mais ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui forment l'église. Ça ne peut pas être des hommes. Donc je continue d'abord. Et on termine. Les frères Léonard Rousse et Paul Schmitt ont été appelés par leur prénom et leur nom par le Seigneur et sur son ordre. Ils ont été établis comme anciens en 1964 avec un plein accord de toute l'Assemblée, l'approbation de l'Assemblée. Ici, dès le commencement, nous avons affaire à une Église structurée bibliquement selon l'ordre de Dieu. Faites attention. Une Assemblée structurée bibliquement selon l'ordre de Dieu. C'est le même Seigneur qui m'a ordonné à lundi matin de 1962, lors de mon appel, d'aller dans d'autres villes pour publier sa parole, mais de ne fonder aucune Église locale. Qui m'ordonna ce vendredi soir 1964 de consacrer Léonard Rousse et Paul Schmitt comme anciens, ici dans notre église. L'église du Seigneur n'est pas l'œuvre de l'homme. J'aimerais que ça soit vraiment assimilé dans le cœur. Ce n'est pas, et ça ne sera jamais, ça ne pourra jamais être l'œuvre d'un homme. Impossible. Parce qu'autrement, on a cru en vain. Et Dieu n'est pas Dieu. Comprenez? Vous acceptez ça? Alléluia. Alléluia. Non. On arrive ici. L'église du Seigneur n'est pas l'œuvre d'un homme, mais bien par sa grâce, l'œuvre de Dieu. Il est également écrit pour notre orientation, pour notre guide. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités. Hébreux 10, 32 et 33. Voilà. Donc, je termine avec quelques paroles. Que Dieu bénisse nos cœurs. Vous voyez le premier amour? Vous voyez le premier amour? Ce qui est écrit dans Hébreux 10, 32 et 33 parle vraiment du premier amour. Là où l'impact qu'il y a eu avec le Seigneur, que vous avez eu avec le Seigneur, c'était quelque chose d'irréversible, profond, à l'intérieur c'était fait. Et ensuite, le temps passant, la chose a un peu glissé. Mais la chose est là, ça reste là. Voilà pourquoi la première assemblée, l'erreur qui a été faite, qui se sont éloignés du premier amour, voilà où est le retour maintenant de Malachie 4, 5, au premier amour, au Père apostolique, le premier amour. Combien c'est important, combien on a besoin de faire vivre cela toujours plus. Vous voyez, vous avez été affligé, vous avez supporté une grande lutte de souffrance, des opprobres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pensé. Donc, le temps passant, vous n'avez pas pensé que vous étiez quelqu'un, que vous pourriez faire une église, que vous pourriez fonder ça, que vous pourriez être ça. Non, on n'avait pas cette pensée-là. On pensait seulement à louer Dieu. On pensait seulement à prier et glorifier le Seigneur. Ça, je peux le garantir en disant « Ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité. » Les années passant, et puis l'ennemi est venu avec sa cisanie, comme on l'a lu ici, en 1966, voyez, en 76. Vous voyez, l'ennemi est venu, il a semé toutes ces choses-là, toutes ces zizanies, toutes ces mauvaises semences, et puis il y a des choses qui ont été déviées, fourvoyées. Tout le monde voulait faire quelque chose, mais une église ne peut jamais être fondée par un homme, impossible. Matthieu 16 dit, Jésus, j'édifierai mon assemblée, moi. Lisons quelques passages encore maintenant. Donc ça, c'est moi qui avais noté ici. Donc c'est-à-dire, j'avais une pensée, une inspiration, et je dois l'écrire. En première chose, une église ne peut jamais se reposer sur une église. Dans Matthieu 16 et Corinthiens. L'homme, mais derrière l'Esprit Saint qui accomplit sa volonté, c'est Dieu qui doit inspirer. L'homme est un intermédiaire, l'homme est un outil. Voilà pourquoi. Tout ce que l'homme fait tombera, mais tout ce qui est édifié par Dieu restera. Voilà pourquoi les anciens, excusez-moi, voilà pourquoi, avec Tite et Timothée, Paul, et tous les autres, Pierre, donc ils étaient là pour reconnaître les anciens de les assemblées. Ils devaient choisir des hommes. Ils priaient, ils choisissaient des hommes qui étaient là. Et qui formaient des groupes. Ils formaient des groupes qui se réunissaient. Vous voyez? Mais c'était Dieu qui commençait l'œuvre. Dieu commençait l'œuvre. Jamais un homme, ça peut jamais être un homme. Voilà pourquoi. D'abord, je dois balayer devant ma maison. Et une fois que j'ai bien lavé, balayé ma maison, ensuite je peux édifier. Je parle bien sûr d'un point de vue spirituel personnel. Exactement comme David. Parce qu'il n'était pas possible qu'il édifie une maison, Salomon l'a fait, etc., etc., et tout le reste. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu, frère Franck, s'il n'a pas fait des églises, mais l'inspiration de la parole a fait en sorte qu'il a formé, que ça a été formé, des groupes sont venus à la vie par la volonté de Dieu. Des hommes sont venus et ils ont été édifiés, vous avez compris. Mais l'homme lui-même ne fondera jamais une église. Alléluia. Donc lisons du passage. Et ensuite nous arrêtons. Que vous connaissez déjà. Mais néanmoins, on va voir ceci avec une clarté un peu plus nette. Comment dire? Donc d'abord, Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu Matthieu 16, 18. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. J'édifierai, je bâtirai mon assemblée sur ce roc, cette pierre. Il est vrai que le protestant dit c'est Jésus-Christ, l'autre dit non, voilà. Non. Vous savez que c'est la révélation de Jésus-Christ. Vous le savez très bien, on le sait très bien. Ça peut pas être un homme, ça peut pas être un homme. Il faut pas que ça rentre, que ça vienne dans le cœur d'un homme. Pas possible. J'édifierai mon église. Et à ce point-là, comme à l'église de Krefeld, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ils ne la vaincront pas. Mais si c'est édifié sur un homme, ça va tomber. Vous y êtes? Vous avez compris? Alléluia. Mais si c'est édifié sur la révélation de Jésus-Christ, la parole de Dieu, ça va rester là. À Krefeld, c'est resté là. Parce que c'était pas édifié sur un homme. Et nous, vous croyez que c'est un homme qui nous a réunis tous ici ensemble? Il faut que vous le sachiez. Vous devez le savoir. Parce que si c'est un homme qui nous a réunis ici, on peut entrer, on peut sortir librement. Mais il y a un passage ici important de l'Écriture qui dit, dans Ecclésiaste, lisons dans Ecclésiaste 5, donc, normalement le 4 avait un verset en plus. Ecclésiaste 5, 1. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Ecclésiaste 5, 1. Je relis. De façon que vous puissiez voir. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Et approche-toi pour entendre plutôt que pour donner le sacrifice des sceaux. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est quoi le sacrifice? Moi, je fais quelque chose. Moi, je vais à l'église. Moi, je vais faire plaisir à toi. Moi, je veux faire ça. Vous voyez? Voilà pourquoi. Il rentre, il sort. Moi, je peux partir, je peux rentrer, je peux faire ce que je veux. Mais dans l'église de Jésus-Christ, qui est fondée par lui-même, par révélation, on n'entre pas et on ne sort pas. C'est là, on est là, on est dedans, on prend naissance dedans. Vous comprenez? Alors à ce point-là, 1 Corinthiens 12, 12, ça c'est clair et net, que Dieu bénisse nos cœurs et qu'il nous confirme cela. Vous voyez? Entrer et sortir, il ne peut pas le faire si c'est Dieu qui a fait cette chose-là. 1 Corinthiens 12, 12, il est écrit, car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres, car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ, car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit du grec, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Il y a l'unité de l'Église, ce n'est pas la tienne, la mienne, c'est du frère Franck, c'est pas du frère Branham, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez comment tout entre dans l'ordre. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est important. Comme il est écrit ici. Vous voyez? Donc le frère Franck qui écrivait « L'Église du Seigneur n'est pas l'œuvre d'un homme ». Quand il y a un apôtre qui va établir un ancien pour conduire un peuple, c'est la conduite, c'est la conduite de Dieu, c'est la vraie conduite de Dieu. Et cette chose demeure parce que c'est Dieu qui l'a établi. Parce qu'il y a, une bonne pensée, il y a une bonne révélation. Il y a la révélation, mais quand c'est l'homme, alors là, quand c'est l'homme, la chose finit. Alléluia. Comprenez? Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Donc le premier amour, Dieu doit nous aider. Parce que c'est important qu'on se rappelle les afflictions du commencement. Vous vous souvenez du commencement? De vos afflictions du commencement? La famille ne voulait pas croire, ils ne vous acceptaient pas parce que vous croyez. Il y a des problèmes avec des frères, avec des sœurs, il y avait des afflictions, il y avait diverses luttes, encore, même encore aujourd'hui. Mais vous, malgré tout, contre vent et marée, vous êtes allé de l'avant et vous avez dit, non, moi je l'ai reçu, je l'ai accepté et je l'ai pris. Il est à moi. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'est le retour vers nos pères apostoliques. Ce que Dieu nous a fait grâce dans cette restauration de l'arbre de l'épouse, d'Élie, Matthieu 17. Matthieu 17, 11, de ramener toutes choses à sa place, rétablir toutes choses à sa place. Voilà ce qu'on vit maintenant. Est-ce que vous êtes conscient qu'on est en train de vivre cela? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de vivre cela. Que Dieu vraiment réchauffe nos cœurs, nous réjouisse, nous donne la force pour pouvoir vraiment entrer dans le même esprit, pour servir Dieu de tout notre cœur. Amen. Alléluia. C'est nécessaire. Je sais que... Bon, nous allons nous arrêter. Nous allons arrêter. Alléluia. J'ai noté ici, c'est important. Beaucoup. Frère Franck a dit. Alors, si c'est lui qui l'a dit, Frère Branham a dit. Alors, si c'est lui qui l'a dit, alors ça va. Amen, ok. Mais est-ce que tu le compares? Tu veux être sûr que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que vous avez compris? Vous comparez avec les Saintes Écritures? Jusque maintenant, Dieu nous a fait grâce. Jusque maintenant, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Comme pour le frère Branham. Ainsi pour le frère Franck aussi. Dieu est en train de nous faire grâce. Tout est conforme aux Écritures. Ce n'est pas une erreur de langage qui compte. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force, et nous donne la force à nous tous. Dans ces moments vraiment un peu difficiles, qu'il nous donne de la force. Bientôt, on sera libre. Attention. On sera libre bientôt, physiquement. Mais spirituellement, on est libre. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Spirituellement, vous êtes libre dans votre cœur. Il y a Jésus-Christ. C'est Jésus qui vous a affranchi. Il vous a vraiment libéré. Vous êtes vraiment libre. Amen. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous remercions vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Amen. Ce sont des perles précieuses. Amen. Et nous voulons les garder dans notre cœur. Amen. Amen. Qui prie le Seigneur et nous congédie et qui nous souhaite la bonne nuit. Nous allons prier. Qui sent de remercier, de le remercier. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous a libérés de nous asseoir dans les lieux célestes, pour nous asseoir dans les lieux célestes. Tu nous as donné cette foi, la force, ta parole. Tu nous as révélé toutes choses. Et tout ne dépend pas de nous, mais de toi. Toutes choses viennent du Père. Qui nous donne le règne. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'on ne pouvait pas imaginer faire un choix, mais c'est toi qui as fait le choix pour nous. Tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu as vu notre cœur. Tu as vu notre besoin. Et tu as reconnu qu'en nous, il y avait ce terrain fertile afin que ta parole fasse croître la foi nécessaire pour aller de l'avant dans ce sentier glorieux que tu as tracé pour nous tous. Nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu, pour la révélation que tu donnes dans ta parole, parce que ça nous ouvre le cœur et l'esprit. Et chacun d'entre nous peut se mettre en ordre avec ta parole. Nous te demandons, Seigneur, la foi, la force, la capacité, Seigneur, par ton sang, afin que nous puissions accepter chaque chose et que nous puissions nous mettre en ordre, en place, en ordre, rétablir avec ta parole. Et quand tu nous appelleras, que nous puissions répondre à cet appel et que nous puissions avoir cette eau, cette huile, afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin. À la fin de cette journée, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Et nous te prions que ta bénédiction soit encore avec nous. Nous pouvons encore, que nous puissions encore méditer ta parole, Seigneur. Et que nous puissions avoir toutes choses, Seigneur. Te demander, Seigneur, que tu puisses réveiller, raviver le cœur. Ce premier amour que nous désirons de tout notre cœur. Et que nous puissions faire que chaque pensée, chaque chose qu'on doit faire, qu'on puisse toujours l'accomplir à travers ta parole. Révèle-nous chaque chose, Seigneur. Bénis tout ton peuple, partout sur la surface de la terre. Bénis le frère Franck, Seigneur, Franco. Bénis frère Franck pour ses enseignements et ton église partout dans le monde. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Continue de nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse.